Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres ? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description.
Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%, accompagné de Vincent, de la team 1000%. Comment ça va Vincent, en forme ?
Ben ouais, en forme et très content d'être là.
Ben nickel, on va essayer de profiter aujourd'hui encore, de se régaler et de vous apprendre. On va parler de MMA, on a la chance de recevoir Delphine aujourd'hui. On va parler de pas mal d'aspects, que ce soit sur l'entraînement, le mental, mais également ce que les sports de combat peuvent apporter dans la vie en règle générale. Donc déjà Delphine, un grand merci d'être présente avec nous aujourd'hui et on va te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
Ben, merci à vous pour l'invitation. Donc, je suis Delphine Benouet, je suis combattante professionnelle de MMA. J'ai commencé en amateur, j'étais en équipe de France et j'ai fini ma carrière amateur par un titre de vice-championne du monde. Ensuite, j'ai voulu passer professionnelle et voilà. J'ai toujours fait du sport et les sports de combat sont arrivés assez tardivement dans ma vie, mais j'ai toujours aimé ça.
Ben justement, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours sportif, quand ça a débuté et comment ça a évolué ?
Oui. Alors, au début, quand j'étais petite, je touchais vraiment à tous les sports. Je faisais 2 sports chaque année et mes parents, ils voulaient qu'à la fin de l'année, j'en garde un et j'en change un. Donc, j'ai vraiment touché à tout, la gym, le basket, le foot, le rugby, l'athlétisme. J'ai vraiment tout fait. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'athlétisme au lycée. Je faisais du 400-800. Et j'en ai eu un petit peu marre de courir et j'ai voulu tester d'autres sports. J'ai fait de la danse, j'ai fait de l'escalade, du parcours. Et ensuite, j'ai découvert le grappling. Et j'ai vraiment super bien accroché avec le grappling. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions. Je suis rentrée en équipe de France de grappling. Et après, en fait, je suis prof de PS à côté. Je venais d'avoir mon concours. Et comme juste après avoir eu mon... Il y a 2 concours pour être prof de PS. Tu as le CAPEPS. C'est le concours d'ouverture pour avoir le droit d'être prof. Et ensuite, tu as l'agrégation. C'est un concours qui te permet d'être payé plus, mais de travailler moins. Comme ça, tu peux aussi donner des cours à la fac. Enfin, ça t'ouvre un peu plus de portes. Donc en fait... dès que j'ai fini mon premier concours, j'ai tout de suite embrayé avec le deuxième. Et du coup, c'est un travail monstre parce que tu as entre 30 et 50 places selon les années. Mais le nombre de candidats, il est juste fou. Des fois, tu as jusqu'à 5000 candidats. Donc, c'est énormément de travail. Et du coup, pendant cette année-là, j'ai zappé de faire mes vœux pour savoir où tu allais être muté à la fin de l'année. Et je me suis retrouvée super loin de mon club de grappling. Je me suis retrouvée à Évry, dans le 91. Et du coup, j'ai changé de sport comme ça, en fait. Un peu parce que, comme une bolosse, j'ai laissé passer la date pour postuler. enfin pour faire mes vœux, et je me suis retrouvée à un endroit où personne ne voulait aller, en gros.
Et tu l'as eu la grecque là, ça a l'air sympa quand même, hein. C'est payer plus pour travailler moins, ça.
C'est ça. Et oui, je l'ai eu. En fait, j'ai enchaîné les deux. C'est assez rare d'enchaîner les deux parce que bah c'est. En fait, t'as un mémoire à faire pendant ton année de CAPEPS. T'as beaucoup de travail quand même à rendre. Plus t'es à moitié en établissement, à moitié à l'université. Et du coup, moi, j'ai pendant cette année-là, j'ai préparé l'agrégation. Et du coup, je l'ai eu. J'ai tout enchaîné, mais c'était one shot.
Donc, tu as commencé par le grappling, mais pourquoi le grappling justement et pas un autre sport? Après, tu as fait du 400 et du 800, donc je comprends pourquoi tu as arrêté parce que c'est horrible. Il faut avoir un gros mental déjà
Vraiment.
pour faire ça. Et pourquoi le grappling et pourquoi pas un autre sport comme le judo par exemple, des choses plus courantes entre guillemets. Qu'est-ce qui t'a amené vers le grappling?
Bah, au début, en fait, j'ai une copine qui voulait qu'on teste le JJB. Et on s'est retrouvés dans un club de Muay Thai. Enfin, elle a fait n'importe quoi sur le cours d'essai. Et elle n'est même pas venue. Donc, moi, je me suis retrouvée à faire du Muay Thai dans un club. Et à ce club, j'aimais pas trop le striking, mais à ce club-là, j'ai rencontré des grappleurs qui étaient vraiment super gentils. Bah, Dao, il s'appelle, et Fabien Brochetel, qui avait le club Infinity, qui est à Nanterre. Donc, j'ai voulu tester le grappling juste parce qu'en vrai, je l'ai trouvé gentil. Et bah j'ai testé et j'ai adoré ça, leur pédagogie elle est ouf. Et en fait ce qui est super cool au grappling c'est que en fait c'est comme du jeu, c'est comme si tes entraînements tu dois chahuter avec les autres et moi j'ai toujours aimé chahuter, bouger, rouler dans tous les sens, enfin j'ai toujours aimé bouger ouais. Et du coup le grappling c'était vraiment un jeu dans lequel bah j'aimais beaucoup ça parce que t'apprenais en même temps quand tu rates à l'entraînement, c'est pas trop grave, tu vois. C'est pas comme si tu prends des coups, t'es pas puni, t'es vexé parce que bon, t'as pris un étranglement, t'as pris une clé de bras et tout, mais t'es pas puni physiquement comme dans le striking en fait. Et donc
Oui.
c'est comme ça que j'ai approché et que j'ai appris à aimer les sports de combat.
Il faut expliquer, ou peut-être aussi à les auditrices qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le grappling,
Ah
de
oui.
façon très résumée, le grappling, c'est il faut soumettre l'autre et sans kimono. Et le JJB, c'est avec un kimono. Si on devrait vraiment résumer, on est d'accord sur ce
Exactement.
principe-là. Et
Ouais.
pourquoi du coup des sports de combat, tu n'en avais jamais fait avant? Est-ce que ça a été, je sais pas, c'était juste par rapport à ces connaissances-là? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose en toi qui t'a donné envie peut-être de, je sais pas, on sait que c'est un peu à la mode ces derniers temps pour savoir se défendre dans la rue, des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait une idée derrière la tête ou pas du tout, c'était juste pour kiffer, être avec des amis qui étaient sympas?
Non, en vrai, j'ai jamais eu de problème, on va dire, à l'école, dans ma vie ou quoi. Je trouve, j'ai toujours été dans des bonnes relations avec les gens. Je vais pas trop au conflit et tout. C'était vraiment pas dans ce souci-là. C'était surtout en fait que j'ai toujours aimé me bagarrer, chahuter. J'avais trois grands frères, donc à la maison, je faisais que ça. Et mes parents, en fait, ben, j'étais déjà un garçon manqué quand j'étais petite. Et mon père, il a voulu faire des enfants jusqu'à avoir une fille. Donc lui, il voulait pas que je pratique les sports de combat. C'était un échec son éducation, enfin pour l'éducation qu'il m'a donnée. Donc petite, j'avais pas le droit de faire des sports de combat. Je voulais faire du judo quand j'étais petite, mais j'ai pas trop eu le droit. Et donc j'ai commencé le grappling. J'avais 20 ans, donc je faisais un peu ce que je voulais à 20 ans. Enfin dans le sens où bah, j'avais de l'argent pour me payer. Enfin, je travaillais, donc je pouvais me débrouiller pour me payer mes entraînements.
Et du coup, t'es prof de sport. Comment tu pourrais décrire bah, ta discipline? Maintenant, tu fais du MMA. Donc, comment tu pourrais vulgariser bah, aux gens qui nous écoutent, toi, comment tu vois cette discipline?
Le MMA?
Ouais.
Pour essayer de vulgariser le MMA, je dirais que. C'est, on va dire, souvent des oppositions de style dans une cage avec un mélange de sports de combat. Tout le monde peut gagner. Tu peux être un boxeur et gagner, comme tu peux être un lutteur et gagner. Donc en fait, c'est celui qui va le mieux placer ses cartes pour s'en sortir dans la cage. Et il y a trois, quatre principaux domaines dans le MMA. C'est le moment où tu es hors distance, où tu peux striker. Le moment où tu es collé et tu peux soit striker, ça va être avec les poings,
Mon
les
pied,
coudes,
ouais.
les genoux, les pieds. Et le moment où tu es à distance et tu peux soit striker, soit lutter. Et après, bon, contre la cage, c'est aussi quelque chose de particulier. Et après, c'est tout ce qui va être au sol où tu peux striker, soumettre, te renverser, contrôler. Voilà.
Et ton évolution alors du début du grappling jusqu'à aujourd'hui, est-ce que on accélère un petit peu, mais est-ce que tu pourrais nous amener vers ta situation actuelle? Comment ça s'est passé, les grandes étapes?
Alors, au début, j'ai commencé le MMA. Au bout d'un mois, on m'a inscrit à une compétition. Donc, au début, en vrai, j'ai fait du grappling à cette compétition. J'ai couru sur la fille, je l'ai attrapée, je l'ai plus lâchée. Et maintenant, je deviens une combattante beaucoup plus intelligente, beaucoup plus stratégique. Et bizarrement, je fais plus du tout de grappling. Je fais quasiment que du striking et de la défense de lutte. On va dire que mon MMA, il a perdu dans les dimensions qu'il aurait pu avoir, juste parce qu'on a remarqué que c'est ce qui marchait le mieux dans la cage face aux autres.
Oui, et puis nous, on s'est croisés au Mahmoudi, qui est quand même
Oui.
un temple du Muay Thai et du kickboxing. Donc, tu es arrivé, je pense que le striking, le pied-point, tu as suivi cette philosophie du Mahmoudi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand tu es arrivé dans la salle, tu étais très intellect, tu vois, dans ta façon de vouloir comprendre le game plan, de vouloir comprendre les techniques. Tu es arrivé avec vraiment une envie de compréhension. Je pense que ça, c'est vraiment une de tes forces.
Ouais, Nico, il dit un truc que j'aime bien. Il dit que tu découvres le MMA deux fois. Tu le découvres une première fois quand t'apprends toutes les techniques qu'il y a. Enfin, t'apprends pas toutes les techniques, mais tu vois toutes les techniques qu'il y a. Et une deuxième fois quand tu fais le même travail, mais avec la violence en supplément. Et en fait, c'est vrai que c'est très bien d'être intellect. Mais des fois, faut être aussi instinctif. T'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de forcément te poser à quoi que ce soit. Donc, c'est effectivement un mélange des deux qui varie selon les personnes. Moi, je sais que je suis partie beaucoup du côté intellect et pas beaucoup du côté sauvage. Et maintenant, bah, j'essaie de trouver un équilibre entre les deux.
Justement, au niveau de ton entraînement au quotidien, là, tu parles de période un petit peu sauvage. Comment ça se passe pour peut-être les gens qui aimeraient. Bon, toi, tu es à un niveau, tu es professionnel, c'est différent, bien sûr. On imagine qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Mais comment ça se déroule une vie de combattante au quotidien? Est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu? Et après, on reviendra sur la partie un peu mentale.
Ouais, en termes d'entraînement, ton emploi du temps, il va structurer tes progrès. Donc, il faut que ta vie, elle tourne en gros autour de ton emploi du temps. Le matin et le soir, c'est bien si tu peux t'entraîner. Comme ça, tu as un temps de récup entre les deux et tu peux mettre de l'intensité dans les deux entraînements. Donc généralement, le matin, c'est tout ce qui va être sparring à haute intensité. Et le soir, ça va plus être de la leçon ou du travail de drill ou du travail de technique. Des fois, c'est aussi du sparring, mais tous les soirs sparring, en fait, ça va augmenter les risques de blessure. Et en général, moi, pour répartir mes entraînements dans la semaine, au début de la semaine, avec mes coachs, on met tout ce qui est bah, accidentogène parce que j'ai eu un peu plus de temps pour me reposer le week-end. Donc, le lundi matin, je fais du MMA, du sparring. Le lundi soir, je fais de la lutte, c'est du sparring aussi. Le mardi matin, je fais de la prépa. Le mardi soir, je fais de la boxe anglaise, c'est de la technique, c'est l'entraînement un peu cool. Mercredi matin, sparring de MMA. Mercredi soir, généralement, s'il y a aussi de la technique d'anglaise. Jeudi matin, soit j'ai du cardio, soit je me repose. Et du coup, jeudi soir, si j'ai eu le cardio le matin, ça va être des thèmes d'anglaise. Et si je me suis reposée, ça va être du sparring d'anglaise. Et ensuite, vendredi, c'est du sparring light en MMA le matin. Et le soir, c'est du thème en anglaise. Et après, Le samedi après-midi, j'ai grappling, sparring.
Et dimanche repos quand même. Est-ce qu'il y a un jour
Ouais,
off quand
c'est
même?
ça. Ouais, le dimanche, généralement, je fais rien. Et même, souvent, je vais me faire masser parce que je suis en vrac.
Et tu as aussi des semaines un petit peu de décharge, c'est-à-dire peut-être 2-3 semaines où tu vas augmenter la charge d'entraînement et une semaine où tu vas être un peu plus light, ou est-ce que toutes les semaines elles se ressemblent et tu n'as que ce jour-là de repos, ou est-ce qu'il y a quand même une évolution dans tes semaines avec un peu des charges progressives et une baisse de charge?
Alors, je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui s'entraînent moins quand ils combattent pas. Moi, pour être honnête, c'est pas mon cas. J'aime bien m'entraîner. Enfin, je suis vraiment passionnée de MMA. J'ai pas besoin de couper. Le seul moment où je coupe, c'est une semaine après les combats. Et c'est plus en termes pour bien récupérer que pour autre chose. Tu vois, c'est pas que j'ai besoin d'air. J'ai pas besoin d'air. En vrai, j'aime ça. Donc, je suis peut-être pas l'exemple que tu peux généraliser, mais moi, je m'entraîne toute l'année à peu près pareil. Avant les combats, c'est vrai qu'en fait, les sparring, ils sont un petit peu plus aménagés. Genre, tu vas être plus protégé, tu vas avoir le casque, tu vas avoir des gants un petit peu plus gros. Mais ça va être sparring quand même. En vrai, il n'y a que la dernière semaine avant le combat où j'arrête les sparring. Et encore, des fois, on en fait des light à thème. Mais sinon, grosso modo, je fais du sparring toute l'année.
Puis aussi, c'est Nico Hott qui te suit,
Ouais.
ton head coach. Et donc lui quand même, il veut de la charge d'entraînement. Hein. Il y avait un truc qui m'avait marqué. Il disait, en fait, si tu t'entraînes une fois, ben ceux qui s'entraînent 2 fois par jour, ils créent 2 fois plus de capacité que toi. Et c'est vraiment ça, son truc. Hein. Il veut 2 entraînements par jour toute la semaine, à peu près 10 entraînements. Et cette charge d'entraînement, comment est-ce que parfois elle fluctue en fonction de ta fatigue, parfois tes émotions, ou c'est vraiment toujours la même trame?
Globalement, c'est toujours la même chose. Après, comme je te dis, par exemple, si j'ai un sparring d'anglaise, je vais aménager le matin. S'il doit tomber un lundi soir, bah, j'irai pas à la lutte. Enfin, je peux changer mes entraînements. Je suis pas non plus psychorigide. Et si je suis fatiguée, je peux rater un entraînement. Ou globalement, ce qui se fait le plus souvent, c'est je suis fatiguée. Et je sais pas, c'était censé être du thème un petit peu intense. Bah, ça va être, de la correction technique ou ça va être plus léger. Mais globalement, je rechigne pas au travail. Donc, à part si j'ai des blessures ou des trucs qui m'empêchent d'aller à l'entraînement, je vais y aller et voilà. Et après, mon hygiène de vie, elle est conditionnée par mes entraînements. Tu vois, j'ai pas de vie sociale. Je me couche tôt, je me lève tôt. J'essaie de faire une sieste entre les deux entraînements. Enfin, je suis vraiment. Mon train de vie, il est dédié pour que je performe en MMA.
Oui, parce que c'est quoi ton objectif? Tu peux dire aussi aux auditeurs et aux auditrices ton objectif qui est élevé.
Ouais, en fait, j'aimerais rentrer à l'UFC et bah, y faire la plus belle carrière possible. Je vais pas pour l'instant parler on va dire d'objectifs dans l'UFC parce que j'y suis pas encore. Mais oui, j'aimerais rentrer à l'UFC et bah, idéalement aller jusqu'en haut, quoi.
Et au niveau de l'affûtage avant les combats, donc tu as dit que tu réduisais les sparring, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que tu mets en place, peut-être comme une réduction des, je sais pas, des séances de renfort par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres curseurs que tu vas modifier à l'approche d'un combat pour arriver à 100% le jour J?
Déjà, tu modifies les calories.
C'est
Tu manges
sûr.
un petit peu moins à l'approche des combats. Donc, forcément, des fois, tu as un peu moins d'énergie. Après, je suis vraiment pas une grosse 52. Je suis pas à plaindre. Je fais facilement le poids. Tu vois, là, il y a une période quand on a commencé la carrière professionnelle, je combattais tous les mois et j'ai jamais raté une pesée. J'ai jamais été dans le mal pour faire le poids. Donc, pour le coup, j'ai pas besoin de grosses réductions. Juste, ouais, à partir des 2 semaines avant, je fais ma prépa chez R15 avec Georges. C'est un super préparateur physique qui adapte lui beaucoup ce qu'il fait selon ma période de combat ou enfin selon où j'en suis par rapport au combat. Donc c'est plus lui qui va adapter parce que moi je vais jamais aller lui demander ouais tu peux me réduire ou je vais jamais aller lui dire ouais j'ai fait sparring d'anglaise, j'ai mal au bras, on peut enlever les bras. En fait j'y vais, je raconte pas ma vie, je fais ce qu'il me dit de faire. Et c'est lui, lui pour le coup, il adapte. Tu vois, il va me faire travailler sur des temps plus courts. Dès qu'on approche du combat, il va me faire peut-être d'autres exercices. Ce qu'il fait même, franchement, c'est vraiment un passionné. À chaque fois, il me demande mes adversaires. Et selon mon adversaire, s'il se dit c'est un profil lutteuse, pas lutteuse, il va me changer les exercices que je fais.
Ok, ouais, c'est vraiment spécifique alors, excuse-moi Vincent.
Ouais.
Et ta fatigue, tes blessures, quels sont les paramètres que tu repères quand tu es fatigué? Est-ce que tu as déjà eu des blessures dans ta carrière?
Ouais. J'ai jamais eu de grosses blessures. Je touche du bois pour l'instant. Après, souvent, en fait, avec le camp, tu fais des sparring durs. Donc, tu te fais des petits bobos. En fait, si je te dis n'importe quoi, au début de ma carrière, quand j'ai commencé le MMA, mais amateur, je me suis fait une entorse, des cervicales. Donc, je pouvais plus du tout lutter et je me suis mise à boxer. Je me suis entraînée avec mon coach de boxe anglaise et je faisais que de l'anglaise. Donc, j'ai eu ça. Après, au début, je tapais mal. Donc, je me suis plusieurs fois, cassé ou fissuré des os de la main. Et après ça, je me suis plus trop fait de blessures. Ça va être des petites entorses du coude, tu vois, j'ai pas voulu taper ou j'ai tapé trop tard ou tu sais, bah t'es fatigué, tu penses que tu peux sortir mais tu sors pas. Enfin, t'as des petites entorses, des petites contusions, mais pour le coup, j'ai vraiment rien eu de grave. Et c'est juste des petits bobos qui font partie du camp, en fait. Il n'y a aucun combattant qui arrive dans la cage sans avoir de blessure. Et juste, en fait, il a appris à s'adapter avec. Tu vois, pareil, les orteils cassés, bah, t'apprends à t'adapter avec. Nico, il dit que l'entraînement, c'est apprendre à dealer avec la douleur. Et bah, c'est ce qu'on fait au quotidien.
Est-ce que justement tu cherches un petit peu à te protéger dans tes entraînements avec justement voilà des protections ou est-ce qu'il faut à des moments encaisser ces impacts pour s'y habituer et être prêt le jour du combat? Comment ça s'organise tout ça?
Bah, je pense que ça dépend des gens. Moi, pour le coup, je suis pas. Enfin, j'ai du cœur. C'est mon coach, il dit que je porte mes couilles. Tu vois? Genre, j'ai pas peur d'aller à la guerre. J'ai pas peur de prendre des coups. Si je suis touchée, je vais pas essayer de survivre. Je vais quand même essayer de gagner, quitte à me faire éteindre. En vrai, bah vraiment, je combats avec. Sincérité dans le sens où je fais un all-in dans mon objectif. Tu vois, là, c'est comme j'essaie de rentrer à l'UFC. Bah, je fais tout pour. Donc, en fait, c'est dur parce que si tu rates, tu te remets trop en question. En mode, mais il n'y a rien que je fais pas pour ne pas réussir. Et du coup, si tu rates, bah, c'est toi le fautif, en fait. Donc, c'est super dur quand tu rates. Mais en vrai, j'ai pas peur de me prendre les murs plein pot. Et bah, tu vois, au moins, j'aurais pas de regrets. Et voilà. Donc, moi, j'ai pas vraiment ce problème de devoir prendre des coups à l'entraînement. Après, si je dois en prendre à l'entraînement, j'en prends. Tu vois, si t'as une adversaire qui est dure, bah, tu dois prendre des sparring durs pour te préparer pour elle. Je préfère vivre des mauvaises situations à l'entraînement qu'en combat. Donc, voilà. Mais après, généralement, on essaie de se protéger parce que si je me blesse à l'entraînement et que j'arrive au combat à 60%, tu vois,
Et justement, c'est ça,
c'est
c'est
quand même super dommage.
comment tu fais pour gérer ça, ou dans la mesure il faut prendre des coups pour t'habituer, mais en même temps il faut pas se blesser. C'est
Ouais.
comment t'articules? Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour nos auditeurs? Tu vois, moi je sais que j'ai un ami à moi qui fait des sports de combat. Lui, il est plutôt dans la théorie, pas de protection, je suis un guerrier. Après, voilà, chacun fait ce
Ouais,
qu'il veut. Mais toi, du coup,
ouais,
qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs?
bah, je leur conseillerais d'avoir un bon entraîneur parce qu'en vrai, moi, je suis une combattante. Quand je suis à l'entraînement, c'est pas je suis une mongole, mais je viens pour me battre, pour gagner. Donc, souvent, en fait, c'est l'entraîneur qui fait ce rôle de tampon. Qui va te protéger, qui va voir si le risque il vaut le coup ou pas. En fait, ton entraîneur, il calcule tout le temps bénéfice-risque. Tes entraîneurs, ils calculent tout le temps bénéfice-risque. Ils se disent, OK, bah, ce sparring, il vaut le coup. Ce sparring, non, il vaut pas le coup. Et c'est comme ça, en fait, que tu te blesses ou que tu te blesses pas. Voilà.
Et en t'écoutant, je sais pas Alexandre, mais on voit que t'es animé, on voit que t'as vraiment un esprit de combattante. Tu vois, le fait d'être de résister à la douleur, le fait de diriger vers ton objectif. Quelles sont tes qualités de mentalité pour être une combattante, tu vois? Comment tu définirais la combattante?
Bah, je dirais que le premier truc, c'est d'être discipliné. Si t'es pas discipliné, il y a un moment où soit tu vas te blesser, soit tu vas abandonner. Enfin, faut être résilient parce que, bah, surtout pour une fille, tu vois, t'es une fille, ça veut dire beaucoup de ton temps, tu le passes contre des garçons qui ont plus de force que toi, qui vont possiblement te mettre la misère. Enfin, moi, je tourne beaucoup avec des combattants pros et bah, je perds beaucoup de mes entraînements. On s'en fiche de gagner ou perdre un entraînement, mais dans l'idée, je perds un nombre de rounds qui est énorme sur la semaine. Par rapport au nombre de rounds que je fais, je dois perdre, je sais pas, 80% de mes rounds. Et bah, c'est dur, tu vois, tu mets toute ton énergie dans un sport et tu perds quand même. Donc, faut qu'en fait, jour après jour, bah, tu continues d'aller à l'entraînement, même si tu perds beaucoup de rounds. Et surtout, en fait, faut pas que perdre, ça devienne une habitude. Faut jamais arrêter d'essayer de vouloir gagner. Parce que tu peux te dire, bon, bah, je perds tout le temps à l'entraînement, c'est pas grave de perdre. Bah, si, c'est super grave de perdre. Souvent, par exemple, à l'approche des combats, comme je mets plus, on va dire, d'importance dans le résultat, je vais pleurer des fois parce que j'ai perdu un sparring, genre le test match. Même si j'ai perdu contre un tueur à gages, Nico, souvent, en fait, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais regardez qui est en face. Et je dis, oui, mais bon, après, je suis aussi une chouineuse, mais ça m'arrive, en fait, de pleurer parce que bah, je perds trop. Et j'en ai marre de perdre et tout. Mais c'est bien, en fait, je pense. Parce que du coup, ça veut dire que j'essaye à chaque fois de gagner. Et c'est super important. Et même, tu peux pas y aller sans la mentalité de vouloir gagner. Voilà. Donc, je pense que c'est les deux choses les plus importantes. La discipline et la résilience. Après, il y a sûrement plein d'autres choses. Mais là, c'est vraiment ce qui me vient.
Et ce que j'aimerais savoir, c'est aussi en termes de gestion de la douleur. J'imagine que tu dois régulièrement avoir des différents petits bobos un peu partout. Comment justement tu fais pour te dire, ben là, c'est bon, celui-là, ça va aller, je peux m'entraîner normalement. Quand est-ce qu'au contraire, tu vas te dire, ben là, non, je sens que c'est pas bon. Est-ce que tu as des repères, des marqueurs sur lesquels tu vas communiquer avec ton coach pour adapter? Justement, c'est vrai que la douleur, elle est difficile quand on se connaît pas trop. Pour des gens qui se lancent ouais, dans les sports de combat, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement?
Bah, au début, ce qui m'arrivait beaucoup quand j'ai commencé le MMA, c'est que je ne faisais pas une grosse blessure d'un coup. Tu vois, plein de fois, j'ai eu des petites alertes avant de me faire l'entorse à la nuque. Et en fait, même quand j'avais l'entorse à la nuque, en gros, ça me mettait des coups de jus. Et c'est là qu'on m'a dit, mais Delphine, c'est peut-être les nerfs et tout, il faut que tu consultes. Moi, je pensais que j'avais rien et que c'était juste une douleur. Et en fait, au début, quand t'as pas le... Tu ne sais pas où placer la frontière entre je suis une chochotte et non, en fait, je suis juste pas une mongole. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est dur. Et petit à petit, bah, souvent, en fait, t'as mal quelque part. Ce que tu fais, c'est que tu n'utilises plus cette. Par exemple, imagine, je me fais mal à mon bras arrière. Bah, en sparring, je vais mettre que mon bras avant, mes jambes, mes genoux. Et je ne vais pas du tout utiliser mon bras arrière. Et même si c'est une mini douleur, je vais faire la chochotte. Mais en 2-3 jours, j'ai plus rien. Donc, en fait, c'est gagner du temps au final. Des fois, tu veux gagner du temps et t'en perds parce que tu te dis, bah non, je vais quand même utiliser mon bras arrière. Et au final, au lieu de te durer 3 jours, ça va te durer 3 semaines. Alors que si tu avais juste écouté au début. Donc maintenant, en fait, je suis plus, on va dire, à l'écoute de toutes les petites douleurs. Genre, pas une douleur de t'as pris un coup, t'as mal, ça c'est rien. Mais toutes les douleurs articulaires, bah, je vais être super à l'écoute. Et dès que j'ai un petit truc, je l'utilise plus et je m'entraîne autrement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, c'est quoi la limite? Enfin, c'est Vincent qui m'a demandé, je crois, c'est quoi la limite pour pas savoir que tu t'entraînes trop ou pas trop. Généralement, quand j'arrive plus à dormir, c'est que je suis en surentraînement. J'ai appris à voir que c'était ça. Avant, je pensais que juste des fois j'arrivais à dormir, des fois j'arrivais pas. Et dès que je dors mal, c'est que je suis en surentraînement. Donc je vais en faire moins à l'entraînement. Je vais dire au coach, non, je suis en surentraînement, je fais moins.
Et
Et
tu
voilà.
monitors ton sommeil, t'as un outil pour ça ou c'est vraiment au ressenti?
Non, je monitore pas mon sommeil. Par contre, je monitore ma quantité d'entraînement. J'ai le petit capteur Morpheus. Et après chaque entraînement, j'envoie à Nico ce que j'ai fait. Donc lui, il voit jusqu'où je suis montée. Il voit, en fait, c'est séparé en trois zones. T'as zone verte, zone jaune et zone rouge. Et il voit combien de temps j'ai passé dans chaque zone. Et les zones, en fait, plus tu l'utilises, plus c'est précis ces zones, on va dire. Donc lui, il voit combien de temps je passe à chaque entraînement dans chaque zone. Et les fois où je suis fatiguée, il me demande de lui envoyer mon récap de la semaine. Tu vois, je peux lui envoyer généralement à la fin de chaque semaine, je lui envoie. Mais si je lui dis ouais, j'ai mal dormi, je pense que je suis en surentraînement, il va me dire bah envoie et on voit si j'ai mal dormi parce que par hasard ou si j'ai mal dormi parce que oui, je suis en surentraînement.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10, lien et code en description. Retour au podcast.
Et là.
Est-ce que tu as mis un... Excuse-moi Vincent, je sais pas si tu voulais rebondir par rapport au sommeil.
Non,
Moi,
pas
je voulais juste...
forcément, mais...
Ouais, moi, je voulais juste te demander si tu avais... Vous connaissez un petit peu dans les blessures, est-ce que tu as mis en place une routine justement de ces années de combattante avec... Ben voilà, peut-être tu as identifié tes points faibles et sur lesquels tu vas venir travailler, que ce soit en mobilité ou en renfo. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu as instaurées quotidiennement ou tous les 2 jours pour justement lutter contre ça?
Ouais, j'ai plein de routines. J'ai pas pensé à en parler parce que pour moi c'est devenu bah, la routine.
Partage-nous tout
Mais
ça.
j'ai plein de routines déjà tous les matins et tous les soirs. C'est genre une petite séance de yoga. Enfin, c'est des étirements en gros que je fais. Je vais pas tirer fort. C'est vraiment juste pour bah pas être bloqué au niveau des hanches, enfin c'est un peu tout le corps. Et ça, je l'ai fait pas par rapport à une blessure, mais je pense que ça aide à la prévention des blessures de manière générale. Mais je l'ai fait parce qu'en fait, il y a un combat. Mes coachs, ils me disaient envoie un high kick, et tu vois, dans ma tête, je clique sur le bouton high kick et c'est un middle qui part. Après, je me dis, mais comment ça, j'ai envoyé un middle? Et je refais pareil. Et en fait, j'arrivais pas à monter ma jambe, et à force de trop m'entraîner, j'étais devenue super raide en fait. Donc maintenant, tous les matins et tous les soirs, 7 jours sur 7, je fais ça. Donc c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça prend pas 10 ans, mais voilà. Après, par rapport aux blessures, en fait, avant, j'avais un déficit des ischios et j'avais les quadris trop. En fait, j'avais les quadris trop puissants par rapport aux ischios. Et du coup, ça pouvait me créer des douleurs. Ça tirait un peu la hanche en avant. Ou enfin, ça me faisait des inconforts, des douleurs. Je me claquais au niveau des ischios. Donc tous les matins, pareil, j'ai un quart d'heure de renfort des ischios, des deux jambes. Ensuite, je fais de la roulette, les abdos. Mais ça, c'est pour parce que j'ai peur d'un jour prendre un KO corps. Et donc, je fais ça plus pour pas prendre de KO corps. Et enfin, voilà, même pour le gainage en
Nous expliquer ce
général.
que c'est?
Un KO corps ou la roulette?
Un cas au corps.
Un KO corps? Souvent, en fait, quand tu te fais taper au niveau du plexus ou au niveau du foie, à un moment où tu es relâché, ou si tu manques de gainage, bah, tu peux en fait te faire attraper. Et après, bah, au plexus, ça te coupe ta respiration. Et au foie, c'est en fait ton foie, il gonfle et ça te fait trop mal et tu peux plus bouger. Enfin, donc voilà, je me suis déjà fait toucher au foie, mais j'ai jamais pris de cas au foie. Ou même de KO plexus. Donc je me dis que ça marche et qu'il faut que je continue ce truc de la roulette. Peut-être que c'est une fausse croyance et que juste ça me fait un bon gainage, mais dans les 2 cas, ça me va et je continue. Et après, je fais de l'élastique tous les jours parce que pareil, j'ai en fait mon bras arrière. Quand je l'envoie avec mon épaule, mais je le ramène avec mes abdos. Du coup, l'arrière de mon épaule, il est super faible au final. Et donc, pareil, tous les jours, j'ai 5 minutes, pour faire travailler l'arrière de mon épaule. Et c'est tout.
Un petit peu les
Et c'est déjà
cervicales,
bien.
non? Les cervicales, non, pas de renforcement spécifique, un petit peu, on voit souvent un grappling, les exercices de pont sur les cervicales de gainage postérieur. Tu le fais de temps en temps, plus peut-être à la muscu, peut-être?
Je l'ai longtemps fait bah, suite à l'entorse cervicale, mais maintenant je le fais plus et j'ai plus du tout de blessure liée à ça, donc je le fais plus. Peut-être il faudrait par prévention, mais pour l'instant je le fais plus depuis, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans.
Il y a des priorités. On touche du bois en tout cas pour que ça
Ouais,
dure. Vincent.
merci.
T'inquiète.
Et ouais, moi c'est vraiment ce parallèle avec. On dirait que ta vie de combattante, c'est le concentré d'une vie normale. Faut être discipliné, faut être résilient, faut faire face aux douleurs. Est-ce que peut-être tu pourrais nous faire un petit pont sur l'anxiété ou le stress qui monte avant un combat, le fait d'affronter quelqu'un aussi, c'est particulier. Voilà, nous faire un petit point sur ça.
Ouais, je sais. Bah, pareil, je pense que je suis pas le reflet de la norme pour ça. Bah, j'ai jamais été une personne très anxieuse. En fait, je suis tellement optimiste que j'ai tout le temps l'impression que tout va bien se passer et que, je sais pas. Enfin, j'ai confiance. En fait, je me dis j'ai tellement travaillé qu'il peut rien m'arriver. Et bah souvent, je me surestime entre guillemets. Genre, il se passe des trucs que je m'att enfin, auxquels je m'attendais pas et voilà, c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais dans la globalité, je suis pas trop stressée à l'approche des combats. Je suis bien aussi. Et si jamais je suis stressée, bah je me refais le game plan dans ma tête. Je me vois en train de, enfin, je visualise tout ce que je dois faire. Si ça se passe mal, tout ce que je dois faire pour m'en sortir. Si ça se passe bien, comment je vais finir le combat? Et du coup, au final, je trouve, c'est, tu te dis que bah t'as quand même pas mal d'options, même si ça se passe mal. Et bah voilà, au pire, en fait, j'ai fait tapis, j'ai fait de mon mieux, quoi. Donc ouais, non, je suis pas trop stressée dans le sens où de toute façon, je peux rien faire de plus. Et stressée, ça va me faire perdre de l'énergie, ça va. Je contrôle pas en fait ce que elle va faire. Je contrôle juste ce que moi je vais faire. Donc je mets globalement jamais d'énergie dans ce qui peut me stresser, qui n'est pas de mon ressort.
Et là, récemment, dans ton parcours, tu as eu une défaite sur ton dernier combat. Comment
Ouais.
tu réagis face à ça? Explique-nous un petit peu, voilà, comment tu absorbes cette défaite.
Bah, tu vois, c'est dur de te dire que je m'en fiche, c'est pas du tout vrai. Je suis super vénère. Surtout qu'en fait, c'était méga proche. En vrai, il y a 90% des gens qui me voient gagner ce combat, 10% qui la voient elle gagner. Donc, en fait, tu peux ressasser le truc en te disant ouais, mais 80, enfin, mais ça y est, c'est fait. En fait, j'ai plus de contrôle dessus. Donc, tout ce que je peux faire là maintenant, c'est travailler pour que ça m'arrive plus jamais. En fait, que toutes les erreurs que j'ai faites pendant ce combat, elles ne se reproduisent pas à l'avenir. Et c'est Je vais pas te dire que je suis détachée de ce truc-là émotionnellement. J'aimerais te le dire, mais en vrai, c'est, je serais une menteuse de te dire ça. Je suis super triste, je suis super en colère, je suis super revancharde. Genre, j'ai envie de ma revanche, j'ai envie de l'exploser devant tout le monde et qu'il n'y ait pas de débat. Parce que là, en vrai, il y a un débat. Mais je me dis, en fait, le seul point positif à cette défaite, c'est que bah, si j'avais gagné, j'aurais peut-être moins retenu les leçons de mes erreurs, parce que j'ai fait des erreurs pour que ce soit aussi serré. En vrai, je pense que je suis meilleure qu'elle dans tous les compartiments et le combat a été serré parce que je suis restée dans un compartiment où elle a fait quelque chose auquel on s'était pas préparé. Donc, je pense que j'aurais pas aussi bien retenu les leçons pour être totalement honnête et transparente, mais ça m'aurait vraiment facilité ma carrière qu'on me donne la victoire.
Les leçons, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à vraiment au combat ou par rapport à des choses dans ton entraînement que tu n'avais peut-être pas mis en place à ce moment-là?
Quand tu perds, tu remets tout en question. Globalement, le seul truc que je remets pas en question, c'est mon équipe. Tout le reste, je le remets en question. Tu remets tout en question. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment une combattante qui peut rester que strikeuse? Est-ce qu'il va falloir que je me mette aussi à la lutte? Est-ce que je me suis assez préparée pour les gens fuyants? Est-ce que, enfin, tu te poses un milliard de questions. Tu te dis peut-être qu'il faut que je change mon emploi du temps. que je mette plus de lutte, plus de ceci, plus de grappling, plus de cela, moins de boxe anglaise, plus de muay thai. Tu peux, en fait, tu te refais, déjà, tu te refais le combat 20 000 fois dans ta tête. Tu te refais tous les détails de, ah, mais là, en fait, j'avais son dos, je l'ai pas vu. Ah, mais là, j'avais tel avantage, je l'ai pas vu. Et du coup, tu remets vraiment tout en question. C'est, genre là, c'est une période vraiment chiante où je suis tout le temps en train de douter de moi, douter de tout. En fait, j'ai perdu un peu confiance en moi, mais je sais que ça va revenir et que, tu vois, c'est comme dans la vie, il y a des moments, tu traverses un truc difficile, mais tu sais que c'est une période, tu vois, imagine, tu cumules deux, trois travails, enfin, travaux, du coup, et t'es sous l'eau, t'es fatigué, t'en peux plus et tout, tu te dis, bon, bah, c'est une période, donc ça sert à rien de me plaindre et à ce moment-là, après, ça partira et ce sera plus calme. Et donc, je pense que c'est juste ça, là, tu vois, je traverse ce truc-là qui est un peu relou, mais c'est OK.
Et justement,
C'est quoi ta
comment...
stratégie? C'est quoi ta stratégie là actuellement pour remonter la pente? Là, il y a du doute, il y a du manque de confiance en soi. Qu'est-ce que tu fais pour traverser cette période?
Bah, du coup, je vais me comparer à des filles qui sont fortes. Donc là, je suis à Madrid avec Isabelle Calvo, qui a fait championne du monde amateur. Qui est très solide, qui est très complète, c'est une combattante vraiment incroyable, et dans la cage et en tant que personne, donc c'est vraiment cool de passer du temps avec elle. Je vois ses méthodes d'entraînement, je vois les miennes. Enfin, en fait, je me fais d'autres ordres de comparaison que j'avais pas forcément. Et dès que je rentre de Madrid, tout de suite après, je pars à Londres, à la Great Britain Top Team, où il y a un nombre de filles bah, incalculable par rapport au reste du monde, et surtout avec un niveau. Qui est juste spectaculaire. Les filles sont très très fortes là-bas et très nombreuses par rapport au reste de l'Europe, voire peut-être même du monde. Enfin, je suis jamais sortie de l'Europe pour m'entraîner, mais voilà. En tout cas, je sais que là-bas il y a vraiment un niveau qui est très sérieux, très solide. Et je vais me comparer à ces filles-là. Je vais faire des sparring. En fait, le truc où je te dis j'ai perdu confiance en moi, mais je sais que j'ai perdu ce combat. On m'a donné la défaite par rapport à la stratégie. C'est pas mon niveau intrinsèque qui a posé problème. C'est juste stratégiquement. Et après, le truc que je peux sur lequel je peux me remettre en question, c'est sur ma boxe anglaise. Mais globalement, le reste, je l'ai pas sorti. Tu vois, il y a plein de choses que je sais faire que je n'ai pas sorti pendant ce combat. Et tu peux te dire c'est une erreur, mais des fois en fait c'est une erreur d'en faire trop. C'est vraiment less is much. Un combat, il faut le gagner. Et voilà, c'est juste, c'est pas mon niveau global qui m'a posé des problèmes, mais là du coup je travaille un petit peu plus mon intelligence de combat. Je vais m'entraîner toute seule. Là, il n'y a pas mes coachs avec moi, donc c'est à moi de prendre les bonnes décisions pour gagner.
C'est vrai que, tu vois, avec Vincent, on a fait beaucoup de foot, donc pendant toute notre jeunesse, et c'est un sport où tu as la chance tous les week-ends, tu joues 90 minutes,
Ouais.
c'est tu vois, tu peux douter un petit peu, mais dès le week-end d'après, tu te reprends. T'as 90 minutes, c'est énorme en termes de temps. Vous avez des fois, vous avez deux, trois, quatre combats par an, ça dure
Ouais.
très peu. Comment faire pour être retrans ce que tu apprends à l'entraînement? Pour être sûr à 90% d'essayer de faire le maximum le jour J, même 200%. Comment tu fais? C'est quoi? C'est mettre de l'intensité aux séances? C'est être dur dans les sparring? T'as dit qu'en plus c'était difficile de trouver des sparring féminins en France, que c'était plutôt des hommes et que t'avais plutôt l'habitude d'être un peu dans le dur. Comment on fait justement pour réussir à s'entraîner autant pour aussi peu de compétition? Ça paraît hyper difficile, quoi.
C'est vrai, en fait, c'est dur, mais du coup, j'ai la chance de faire beaucoup de sparring et de faire des sparring avec des gens de très haut niveau. Tu vois, des fois, en un sparring, j'apprends plus qu'en une semaine. Donc, le sparring, en fait, ça te donne un ordre de comparaison qui est proche. Le seul truc, c'est que bah, je suis avec des garçons. Donc en fait, faut que eux, ils apprennent à bien régler leur curseur. Tu vois, faut pas qu'ils me fassent trop de fleurs. Souvent, en fait, les garçons, ils vont te faire trop de fleurs. Et bon, après, des fois, quand tu commences à gagner, c'est l'inverse. Ils te font l'inverse que des fleurs. Donc ouais, en fait, faut que eux, ils apprennent à juste ne pas te blesser. Tu vois, qu'ils m'envoient pas. toutes leurs forces, parce que sinon je vais dormir en vrai, hein, on peut parler français. Ou surtout en lutte, en fait, la différence de force, elle joue beaucoup aussi, je trouve. Donc, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de comparaisons pour me rapprocher au maximum du combat. Et le truc idéal, c'est soit avec des garçons légers, soit le truc qui est vraiment cool, c'est avec des adolescents. Il y a des adolescents qui ont un niveau de ouf, ils sont trop forts techniquement, mais physiquement, ils n'ont pas encore non plus la force d'un homme. Donc, s'ils sont assez légers, ça va être un super point de comparaison pour moi.
Et en termes de mentalité, justement, dans ces sparrings-là, pour se préparer à un combat, comment tu rentres? Enfin, c'est quoi ton focus? Quelle mentalité t'as pour, tu sais, quand tu vas rentrer dans cette cage-là, c'est un sparring, c'est l'entraînement, mais en même temps, tu sais que c'est un peu ce qui va t'attendre le jour du combat. Il faut en même temps pas essayer de fracasser l'autre, j'imagine. Donc, c'est quoi la mentalité que
Ouais.
t'as? Tu vas vraiment à 200% ou t'as quand même, tu vois, un 90, 85%? Comment ça se passe?
Globalement, quand j'ai test match, en fait, ça dépend. Si c'est un garçon que je connais pas, je vais être honnête, je vais pas fort parce que j'ai peur qu'il se venge après. Et je me dis, tu vois, si on fait l'escalade de la violence, je vais perdre. Donc, si c'est un garçon que je connais pas, je vais être poli, genre je vais pas taper trop fort. Si c'est un garçon que je connais et que je sais qu'il aura jamais de mauvaises intentions, même si moi je suis à 100%, il sait que, tu vois, genre j'essaie jamais de blesser les gens. Genre j'ai une bonne mentalité à l'entraînement, mais je suis super compétitive, je veux gagner. Il y a aucun sparring où j'y vais avec l'intention de perdre. Donc, si c'est un garçon que je connais, bah je lâche un peu plus mes coups. Comme ça, lui en vrai, ça lui rend service parce que il n'y a aucun des garçons qui va affronter qui seront moins forts que moi, qui vont frapper moins fort que moi. Donc, moi, je lâche plus mes coups. Et lui, bah, en vrai, en striking, la différence, elle est moindre qu'en lutte. Donc, en striking, il peut lâcher ses coups. C'est juste, tu vois, généralement, tu vas taper plus fort au corps qu'au visage. Mais même naturellement, je pense que je le fais avec les garçons. Et par contre, en lutte, il va un peu moduler sa force. Mais ouais, j'essaye, moi, d'être le plus possible à 100%. Par contre, en lutte, ouais, je suis tout le temps à 100% contre les garçons.
Et dans ton discours, tu vois, on voit vraiment qu'il y a le fait d'être une femme dans ce sport, ça met quand même des bâtons dans les roues, ou pas, hein, ça te pousse aussi à te confronter à plus fort que toi. Quelle est ta vision de la femme dans le MMA, ta place dans ce sport? Comment tu pourrais nous définir tout ça?
En termes de performance, je pense que tu peux pas rêver mieux parce que bah tu vois par exemple Nassourdine Imavov, il va combattre prochainement pour la ceinture et en vrai quand il a besoin de sparring, bah c'est galère parce qu'il est trop fort, il fume tout le monde en vrai. Tu lui mets même des spécialistes de l'anglaise, il va leur faire du mal. Tu lui mets des spécialistes de la lutte, il va leur faire du mal. Moi, l'avantage, c'est que bah, même si techniquement je suis forte et tout, bah déjà t'as plus de population pour me trouver des sparring. T'as les hommes légers, t'as les adolescents, t'as les femmes. Parce qu'en vrai, je dis que je fais jamais avec des femmes, mais souvent j'ai des sparring féminins. En fait, occasionnellement, j'ai des sparring féminins. Donc soit des combattantes pro de MMA, et je fais des sparring MMA avec des filles françaises. Mathilde, Lucie, Alex, j'ai des sparring féminins. J'ai des sparring féminins en boxe anglaise, en lutte, dans des domaines spécifiques. Donc, je trouve que être une femme, quand tu veux performer dans un sport d'homme, bah, c'est plus facile. Et surtout, ce que tu rencontres à l'entraînement, il y a peu de chances que tu le rencontres en combat. Parce que bah, tu as eu plus fort, tu as eu plus technique, plus tout. Donc, pour moi, c'est vraiment un avantage d'être une femme dans un milieu d'hommes en termes de performance. Après, qui peut te freiner, ça va être les a priori, mais c'est souvent des a priori des gens qui ne pratiquent pas le MMA. Ce que je dis souvent quand on me pose cette question dans des interviews, c'est que bah moi, on m'a jamais fait sentir que j'étais pas à ma place dans mon club. Je souffre comme les garçons, on me fait pas de cadeaux comme les garçons, personne me fait. Enfin, des fois, en fait, je pense que je suis un garçon en vrai. Dans le sens où, à l'entraînement, je me rappelle même pas que je suis une fille. Genre, je vois pas qu'il y a une différence entre moi et les autres. Je sais que je suis une fille, hein, mais ce que je veux dire, c'est pendant l'entraînement, personne ne me le remet dans la tête. C'est plus en dehors quand tu dis ouais, je fais du sport. Ah, tu fais quoi? De la gym, de la danse. Tu dis bah je fais du MMA. Ah bon? Mais enfin, il y a d'autres filles. Tu vois, on te fait comprendre que t'as rien à faire là, mais gentiment, parce que même les gens ils te veulent pas de mal. C'est juste ils ont un peu peur pour toi. Ou ouais, voilà. Même ma mère, sa première question souvent c'est tu t'entraînes avec des filles. Enfin. Genre, ils sont pas méchants, les garçons, des trucs comme ça. Mais en vrai, sur le tatami, personne me dit que je suis une fille, personne me le fait sentir. Et je m'entraîne comme tout le monde et tout se passe bien.
Oui, toi, c'est pas ta réalité. En fait, tous les jours,
Ouais, c'est
tu vois
ça.
pas la différence. Mais il y a bien des gens qui te disent, est-ce que tu peux être une combattante et féminine en même temps, non?
Ouais, bah souvent.
Je te cherche un peu là. Hein.
Non, 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 pas du tout. En vrai, c'est un sujet qui est intéressant parce que bah, c'est vrai que c'est un sport traditionnellement masculin et les valeurs que ce sport y véhicule, elles sont aussi traditionnellement masculines. Tu vois, être compétitive, c'est pas très féminin dans la tête des gens, hein, je parle.
La bagarre.
Ouais, la bagarre, chahuter, les filles, elles sont censées être calmes, être à l'écoute, être sensibles. Bon, je suis sensible, hein, mais ouais, je sais pas, en fait, c'est vrai que les valeurs de ce sport sont pas super féminines. Et quand je dis que je pratique ce sport, les gens, ils sont étonnés. Ah, mais t'es toute douce. Ah, mais pourtant. Ou sinon, on me dit ça. Ah, mais pourtant, t'as l'air d'une fille. Bah, ok. Mais ouais, je sais pas. Je pense que peut-être d'avoir grandi avec des garçons, ça fait que j'ai des goûts assez masculins. Mais globalement, c'est vrai que il y a une disjonction entre les deux. Après, j'ai pas de mal à la vivre, dans le sens où c'est pas quelque chose où je me s'emballe dans l'un et dans l'autre. En fait, je suis juste comme je suis et je m'en fiche qu'on me dise que je suis pas assez féminine, que je suis trop masculine, que je suis assez féminine, que je suis trop féminine. Je m'en fous. Je vis juste ma vie comme. En fait, j'ai pas le temps de me poser ces questions, juste je dois m'entraîner et je le fais quoi.
Et justement, si tu avais peut-être un message, parce que c'est vrai que tous ces clichés-là que tu dénonces, malheureusement, ça peut peut-être empêcher certaines filles à se lancer dans des sports de combat. Qu'est-ce que tu partagerais justement comme conseil pour peut-être débuter, faire un test? Quelle discipline? Ça serait quoi le message que tu transmettrais à ces dames?
Bah, il y a deux freins en fait qui vont empêcher les filles de s'inscrire dans des clubs. Le premier, c'est qu'elles ont peur de pas être avec d'autres filles. Donc dans ce cas-là, en fait, à part trouver des cours féminins, j'ai pas grand-chose à leur dire parce que ce serait mentir de leur dire qu'elles vont se faire plein de copines à l'entraînement. Souvent, en fait, il y en a une ou deux. Et même des fois, moi, je me rappelle. Dans mon club d'anglaise, il y avait une fille avant qui en faisait et je voulais pas être avec elle parce qu'elle parlait trop, elle était pas sérieuse. Et moi, je viens à l'entraînement pour progresser. Donc, tu sais, je disais à l'entraînement, ouais, à l'entraîneur, me mets pas avec elle, s'il te plaît, laisse-moi avec les garçons. Et il comprenait, en fait. Donc, pour les filles qui veulent être avec d'autres filles, bah, faut trouver des cours féminins. Mais autrement, si c'est juste la peur de. D'être dans un monde d'hommes, en fait, oh là, il s'agit juste de trouver un club bah, qui est OK avec tes valeurs. Souvent, en fait, l'entraîneur, il va véhiculer une image que tout le club va répéter. Par exemple, je te donne un exemple. Nico, c'est un mec qui est super droit. Il fait pas d'écart, jamais de comportement bizarre. C'est pas un charreau. Il a jamais eu de. Tu sais, genre, c'est comme un grand frère, il s'est jamais comporté autrement que comme ça. Et du coup, tous les gars au club, ils me prennent aussi un peu pour leur petite sœur. En fait, tu vois, c'est mes frères d'armes. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Le club, c'est le club. Et tout se passe bien là-bas. Et en fait, il faut juste choisir un club dans lequel il y a une ambiance qui correspond. Après, si tu es OK avec cette ambiguïté, prends un club où il y a des ambiguïtés. En général, le coach. C'est lead by example. Si le coach, il est comme ceci, comme cela, les combattants, ils vont globalement se comporter pareil. Et tu vois, s'il y a des combattants qui ont un comportement un peu bizarre, il va leur parler et ça va bien se passer. Donc, en fait, il faut juste trouver un club sympa avec l'ambiance qui te correspond et ne pas hésiter à parler au coach s'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise.
Donc, de ne pas hésiter à changer, tester différents clubs. Mais est-ce qu'après, il y a une discipline qui est plus simple d'accès? On a parlé de JJB, de grappling. Tu vois, est-ce qu'il y a peut-être des. Peut-être que le JJB, il y a peut-être plus de femmes qu'au grappling ou pas spécialement? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr.
Ouais, je sais qu'à l'anglaise, il y a pas mal de filles. JJB, grappling, il y a des filles aussi. Après, c'est pas non plus un sport où on est en surpopulation, c'est pas la danse ou la gym ou voilà, mais il y a des filles et moi je trouve que le plus important c'est pas le nombre de filles, mais c'est en fait leur personnalité, tu vois. Il y a des filles qui vont faire des histoires comme il y a des garçons qui vont faire des histoires, et si tu vas dans les clubs comme ça, bah c'est sûr, tu vas rentrer à l'entraînement, tu auras des trucs dans la tête. Ah, mais il a pensé que j'ai dit ça, enfin, des trucs qui prennent du jus pour rien. Alors que quand tu vas quand tu vas dans un club où tout le monde est peace, tout le monde est bah, bonne ambiance, les filles, les garçons, bah, tu vois, il n'y a jamais de tension au club. Tout le monde rigole, tout le monde s'entraîne sérieusement, tout le monde apprend, tout le monde progresse et tout se passe bien, quoi. On est contents les uns pour les autres, dès qu'on gagne, dès qu'on perd, on se soutient et c'est tout.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est moi j'ai vécu au Mahmoudi 2 ans, c'est comme une famille, tu vois. Et je suppose
qu'il y
a tous les clubs comme ça, tu t'appartiens à un groupe et ça c'est puissant. Comment tu pourrais convaincre les femmes ou les filles de passer au MMA ou dans un sport de combat? Quelles sont les qualités que ça forge?
Bah, je pense qu'en fait, ça te donne une confiance en toi qui est super importante parce que tu es constamment en train de te dépasser. Quand tu prends du recul, en gros, je me dis, mais moi, là, j'ai accompli des choses. Je me pensais même pas capable d'accomplir la moitié. Et tu vois, je les ai pas accomplis dans la difficulté. Je les ai accomplis dans la bonne humeur, dans... Enfin, c'est que des bons moments, des bons souvenirs. Donc, je pense qu'en fait, ça te donne une confiance en toi. Ça te fait traverser des épreuves qui ne sont pas dramatiques, dans le sens où bah, tu gagnes, tu perds. Le lendemain, la terre, elle se réveille de la même façon. Tu ne vas pas perdre ta maman, tu ne vas pas perdre... Enfin, tu vois, tout le monde sera pareil demain. Juste, c'est des super hautes émotions que tu vis et qui te font grandir, qui te font mûrir, qui te font bah, prendre confiance en toi parce que... Tu vois que tu es capable de plein de choses que la société te refuse traditionnellement. Et en fait, bah, quand tu es une fille, tu es aussi forte qu'un garçon, pas physiquement, mais techniquement, dans ce que tu proposes.
Tu parles de confiance en soi. Est-ce que tu as des exemples de personnes pour qui le MMA, pas forcément à haut niveau, hein, mais qui auraient changé un petit peu sa façon de voir le monde? Et surtout qu'on sait en ce moment, malheureusement, qu'il y a certaines filles le soir qui ont parfois peur, tu vois, de rentrer seules. Est-ce que pour toi, ça peut être une raison intéressante de se lancer pour gagner un petit peu confiance en soi, ou est-ce que c'est voir un peu se lancer pour de mauvaises raisons? Est-ce que tu vois, est-ce que ça peut avoir du sens? Comment tu te places par rapport à ça? C'est difficile comme question, je sais. Mais est-ce que certaines filles, on pourrait lui dire, ben regarde, moi je connais elle avait pas confiance. Maintenant, elle arrive à rentrer le soir chez elle, il y a aucun souci, tout se passe bien et ça a changé sa vie. Est-ce que tu as des exemples concrets comme ça ou pas?
Bah déjà, je pense que tu dis ouais, c'est peut-être une mauvaise raison pour commencer. Je pense qu'il y a pas de mauvaise raison pour commencer. En vrai, tu commences, c'est super bien. Tu vois, bon, après, bon, s'il y a des mauvaises raisons pour commencer, tu peux commencer pour te venger de ta voisine qui fait trop de bruit ou quoi, mais globalement, en vrai, t'as que des bonnes raisons de commencer parce que le résultat et ce que ça va t'apporter, c'est trop bien. Donc, je pense qu'en fait, peu importe la raison pour laquelle tu commences, faut commencer. Déjà, tu sortiras plus le soir si tu fais vraiment du MMA, parce que après tu seras fatigué le lendemain. Tu vas finir l'entraînement, tu vas rentrer, tu vas te coucher. Mais oui, c'est sûr que ça donne confiance. En fait, déjà, tu vas être... comment dire? Ton quotidien, c'est de gérer des situations de stress, de gérer des situations difficiles, de gérer, entre guillemets, des puzzles auquel tu dois aménager les pièces pour t'en sortir. Donc globalement, quand il y a quelqu'un qui vient et tu captes que genre il vient pour te poser des problèmes, tu vas rester calme et tu vas juste désamorcer le truc. Souvent, en fait, tu peux désamorcer plein de situations. Je dis pas toutes, hein, bien sûr, mais souvent, je sais pas, quelqu'un il vient pour te draguer un peu lourd ou pour t'approcher, quoi, bah tu peux le remettre à sa place gentiment ou tu sais dire un truc genre écoute, enfin je sais pas, peu importe, ça dépend vraiment de la situation, mais tu peux vraiment désamorcer le truc sans même utiliser la violence. Et après, en fait, toi dans ta tête, tu sais que t'as l'option de la violence si jamais tu désamorces pas le truc. Mais globalement, tu vois, souvent t'es en mode bah, frère, viens, on se dispute pas, tu rentres chez toi, je rentre chez moi, et puis on dépense pas d'énergie pour ça, tu vois. Et ça se passe plutôt bien les trois quarts du temps. Tu sais, t'as pas de mauvaises intentions, tu veux juste rentrer chez toi et les gens ils te laissent. Mais bon, t'as l'option de la violence qui est quand même là si jamais il faut. Après, je pense que si demain je devais avoir un souci et que je devais me battre dans la rue, je te dis la vérité, je pense que je vais courir. Déjà parce que je cours vite. Et ensuite parce que j'aurais trop peur de me blesser. Parce que en fait, quand tu tapes à main nue, en vrai, si tu tapes pas vraiment bien, bah tu peux te faire sauter une phalange ou quoi. Je sais qu'Elias Mahmoudi, en tapant quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui le cherchait, tu vois, lui, il avait vraiment rien fait, il a essayé de désamorcer le truc, il s'est cassé la main. Et depuis qu'il m'a raconté cette histoire, c'est vraiment ma frayeur de me blesser en tapant quelqu'un qui vaut pas le coup, tu vois, que je me blesse. Donc je pense qu'en vrai, j'essaierai juste de désamorcer le truc et de fuir.
Après, on t'a vu combattre, hein. On a vu que tu n'avais pas que le coup de poing. Il y a quand
Oui,
même ce
bien
fameux
sûr.
coup de genou là, il est
Ouais.
fatal celui-là. Hein.
Ouais, mais je pense. En fait, je me dis, il n'y a aucune personne sensée qui peut vouloir se battre avec moi parce que je vais parler, je vais dire, mais vas-y, viens, on fait pas d'histoire pour rien. Et je vais pouvoir désamorcer n'importe quoi. Donc, en fait, si je dois me battre, c'est contre un fou. Et en vrai, j'aurais trop peur, tu sais, de m'approcher de lui,
D'affronter un fou.
qui me crache dessus, qui me morde, qui fasse des trucs de fou, en fait. Tout simplement. Donc, je pense que j'aurais même un peu peur de la mi-distance, même si j'ai les coudes, j'ai les genoux, j'ai les trucs. Je serais pas sereine de m'approcher de lui. Je me dis, il va me griffer, il va faire des trucs bizarres.
T'as un coup préféré? T'as ton petit favori là, celui que tu sors et vraiment qui te fait kiffer, c'est quoi?
Dès que j'envoie les genoux au corps et que j'entends ça, c'est mon moment de bonheur.
Ça se voit,
Bon, ben, on a compris, il faut courir alors. Hein. On va continuer à courir, Vincent, cours un petit peu, ça sera plus efficace. Hein. On sait jamais.
ouais.
On peut avoir
On va tenir la
confiance, mais
distance, hein.
ouais, tenir la distance et courir. Et d'ailleurs, je salue Nico parce que souvent il me dit, viens au sport de combat et tout. Je dis, Nico, moi je sais courir, je pense qu'il y a 90% des gens qui courent moins vite que moi, donc ça va le faire. Donc je l'embrasse. Et je connais, du coup, je viendrai pas faire du JJB, je suis désolé, Nico. Et on a compris du coup un petit peu la vision du MMA, l'entraînement. On a parlé aussi du mental. En termes général aussi, en France, comment ça se passe? C'est vrai que moi, je suis pas expert au niveau du MMA féminin. Ça se développe bien, ça fonctionne bien. Et même ta vision un peu plus globale du MMA et son développement ces 3-4 dernières années, on voit que ça prend une ampleur phénoménale.
Déjà, au MMA, le MMA féminin français, il se porte quand même assez bien. On a deux filles qui sont à l'UFC. Manon Fiorot qui vient de faire un combat super serré pour la ceinture. Franchement, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre contre Valentina. Donc, ça montre que le niveau féminin en France, il n'a pas à rougir du niveau masculin. Et on a Nora Cornol. Qui pareil fait des super belles sorties, tu vois, mais étranglement arrière, KO corps, bah mais KO corps avec un genou, elle finit avec un high kick, tu vois, c'est des combattantes qui montrent que bah les filles françaises ont leur place dans la cage et qui nous ouvrent les portes à nous quand on va pouvoir accéder à des grandes orgas comme ça, bah ça va nous entre guillemets nous faciliter le trajet parce que s'ils voient que les Français suivent leurs Françaises, bah ça encourage. Tu sais, c'est un monde de business en vrai. C'est l'argent qui prime. C'est pas le niveau, c'est le spectacle et l'argent. Donc s'ils voient que les Françaises elles font des beaux spectacles, et qu'elles sont suivies par les Français, par un peu tout le monde, ils seront encouragés à mettre d'autres Françaises dans leur roster. Donc oui, Manon et Nora, elles nous rendent service au reste des Françaises. Et on a des jeunes pros qui sont juste hyper prometteuses. On a Alex Tekena dans la catégorie flyweight. On a, bah, c'est pas une jeune pro, elle a quand même pas mal d'expérience. Et je pense elle a le niveau de rentrer à l'UFC. Et c'est plus une question de, elle attend l'opportunité. Après, t'as Mathilde Aschenbrenner, Morgane Dehaye. Enfin, c'est deux filles qui, pareil, ont un super potentiel. On a Awaso. Franchement, on a des filles qui sont très très fortes et qui sont spectaculaires. Tu vois, il n'y a aucune de ces filles-là, tu regardes leur combat, tu vas bâiller. Donc, je trouve que le MMA féminin, il est encore. Le jeune MMA féminin, il est encore, on va dire, à ses débuts, mais il est prometteur pour moi.
Il y a moins de
Puis tu dis.
combattantes. Excuse-moi, vas-y, vas-y, Vincent.
Non, mais tu parles de spectacle, et c'est intéressant parce que tu es une athlète de haut niveau, mais tu te dois aussi d'être spectaculaire pour attirer le regard des grandes organisations.
Ouais, c'est ça. En fait, bah, par exemple, tu vois, Mika Lebout, un des retours qu'il m'a fait sur mon dernier combat, il m'a dit, ouais, c'était serré, mais c'est toi qui fais le fight. Ça veut dire que si je fais la danseuse comme elle, on se croise pas du combat. Si moi aussi je pars partout et tout, bah, on s'échange même pas un jab pendant tout le combat. Donc en fait, moi je prends les risques à aller faire le combat. Et c'est ce qui est valorisé par les grandes orgas. Et il dit, ouais, c'est dommage que. Les juges ne le valorisent pas à ce point-là. Bon, t'as les critères qui sont censés le valoriser, mais bref, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, il faut être spectaculaire. Et Mamar, que tu connais, il dit souvent que bah, le monde pro, c'est pas les Jeux Olympiques. C'est pas le meilleur qui gagne. C'est pas le meilleur qui est pris. C'est pas du tout ça. C'est le plus spectaculaire, celui qui vend le plus de tickets. Voilà, celui qui met des KO, des soumissions.
Il y a le plus spectaculaire dans la cage, mais il y a aussi toute une partie de
Exactement.
communication extérieure. Est-ce que ça aussi quelque chose qui rentre en considération, les réseaux sociaux? D'ailleurs, on mettra ton lien en bas. N'hésitez pas à aller justement booster un peu les réseaux sociaux de Delphine, aller la suivre. Elle partage pas mal de vidéos, c'est intéressant. Donc, c'est sur cet aspect-là, comment tu fais justement pour essayer de. Il faut créer un personnage. On sait que ça dépend des personnes. On voit Nassour qui est
Ouais, c'est ça.
un peu plus discret. Toi, c'est quoi ta philosophie?
Ouais, alors, bah, moi, en vrai, de vrai, j'aime pas trop les réseaux, je suis un peu timide, enfin, je suis pas timide, je suis réservée, et j'aime pas spécialement raconter ma vie, mais je le fais parce que, bah, ça change tout, en fait. Ça change ta prime de combat, même à tes débuts, ça change les orgas dans lesquels tu vas combattre, ça change les combats qu'on te propose. Tu vois, un Sean O'Malley, qui est une superstar, il a eu un parcours beaucoup plus aménagé que plein d'autres. Donc, ça a tellement d'influence qu'en fait, de nos jours, tu peux pas le négliger. Et Nassourdine, pour le coup, moi, j'adore sa communication. Je trouve qu'avec Younes, ils font vraiment un super travail. Sa com, elle est trop divertissante. Elle est trop bien, il envoie des bêtes de valeur. T'as envie de t'identifier à lui, ça t'envoie la valeur du travailleur, du mec qui est humble, qui est discret, mais dans la cage, il fait des ravages. Tu vois, pour moi, c'est pas l'image idéale du combattant, mais presque. Tu vois, et pareil, un Benoît Saint-Denis, j'adore ce qu'il envoie. Et il est méga naturel. En fait, quand tu le connais, il est dans la cage. Enfin, il est sur les réseaux comme dans la vie. C'est vraiment lui, tu vois. C'est un mec plein de valeurs, qui charbonne, qui a pas peur de, qui est dur au mal, qui a pas peur de faire des efforts, qui a pas peur de se cramer, d'être dans le rouge. C'est vraiment ça, en fait. Et ce que moi j'ai une agent d'image qui est juste formidable. Elle s'appelle Clémentine. Et c'est ce qu'elle fait comme travail avec moi, c'est qu'on essaye de faire sortir ma personnalité sur les réseaux, mais sans la changer, tu vois, je me fais pas passer pour quelqu'un d'autre, je suis juste naturelle et je montre ce que je veux montrer. Tu vois, genre, je fais pas la, par exemple, je fais pas la fille sexy sur les réseaux parce que c'est pas ma personnalité. Je fais pas la mongole sur les réseaux parce que bah, je suis un peu une gogole, mais tu vois, genre, je suis pas, je sais pas comment dire, par exemple, je vais pas faire des fautes quand je parle exprès pour me faire remarquer. En fait, je me dis juste me faire remarquer dans la cage en performant, parce que c'est quand même le critère numéro un. Si tu performes dans la cage, déjà, il y a beaucoup de gens qui vont te connaître. Et si en plus, ils voient que tu as une personnalité à laquelle ils ont envie de s'identifier, c'est là qu'ils vont te suivre. Mais si, tu vois, on a envie de s'identifier à toi, mais que tu es nul dans la cage, bah, les gens, en vrai, ils vont pas te suivre. Et voilà.
C'est dur, on voit Nassour justement qu'il y a des difficultés à avoir ce fameux combat
Ouais.
pour le titre, alors qu'il le mérite, enfin,
Oui,
de
amplement.
notre avis, je pense qu'il le mérite. Et on voit Benoît Saint-Denis qui est peut-être un peu plus showman quand même
Ouais.
dans sa communication, je pense. C'est vrai que ça doit être difficile. Est-ce que, déjà, je sais pas, c'est une question un petit peu, je sais pas, sensible, mais est-ce que vous préparez un discours à la fin du combat déjà en amont pour la communication, pour préparer les futurs combats, ou est-ce que c'est trop compliqué, on reste focus sur le combat? Est-ce que tu vois, tu prépares un peu ton discours si au cas où tu gagnes pour déjà aller chercher quelqu'un ou tu vois avoir justement sur les réseaux faire un peu le buzz derrière? Est-ce que c'est quelque chose qui
Les
maintenant,
coachs de trash
est-ce que
talk.
c'est de la communication tout simplement? Est-ce qu'il y a Tu n'es pas obligé de répondre, hein. Franchement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais moi, de ce que j'imagine, je pense que vu le professionnalisme qu'il y a, je pense que tout est codifié et qu'il y a quand même une trame où déjà on sait qui on va chercher derrière. Et après, c'est normal, de toute façon, c'est un métier. Et le but, c'est de promouvoir des combats
Le
aussi. Donc, ça
show.
fait partie du jeu. Ouais.
Ouais. Alors, bah, je te réponds pour ma part. Moi, je sais que je prévois pas mes discours parce que, en fait, je suis tellement occupée à préparer mon combat que je me dis mettre de l'énergie dans la préparation d'un discours que tu sais même pas s'il va arriver. T'espères qu'il va arriver, tu vois. T'espères que tu vas claquer un KO et lâcher une bête de punchline et wow, tu vas enflammer tout le monde. Mais en vrai, t'es pas sûr. Donc, viens, prépare-toi sur le combat. Et ton discours, en vrai, personne va l'écouter, tout le monde s'en fout. Tu vas dire des trucs, c'est cool, mais sur le coup, tu vas sortir. Enfin, tu vas dire ce que tu as sur le cœur. Et après, c'est vrai que les call-out, je pense, c'est bien si tu les. Moi, je suis pas à un niveau pour faire des call-out, mais quand tu es à l'UFC, je pense que c'est bien de préparer tes call-out. Ça fait monter la sauce, ça va faire monter les montants qui vont être mis derrière. Donc ouais, je pense que c'est intéressant au niveau UFC. Après, hors du niveau UFC, en vrai, concentre-toi sur tes combats, tu vois. Enfin, par exemple, moi, je te dis, je joue le jeu des réseaux, mais ça passe quand même largement après les entraînements. Mon objectif, enfin, ma priorité numéro un, c'est de performer dans la cage. Donc, c'est de bien m'entraîner, de bien manger, de bien dormir, de bien me reposer. Les réseaux, c'est un truc que je le fais si j'ai du temps en plus. C'est pas, voilà.
Mais c'est vrai que c'est un business, tu gagnes ta vie avec ça. Donc le trash talk, tous les réseaux, ça fait partie du jeu, mais aussi dans le game plan. Parce que si tu finis ton adversaire avec un high kick plutôt qu'à la décision, le spectacle est pas le même aussi.
Ouais, le spectacle n'est pas le même, la bourse possiblement n'est pas la
Et ouais.
même. Et ouais, en fait, quand tu es en professionnel, si tu veux te préparer en professionnel, bah faut mettre le spectacle dans ton game plan. Tu vois, par exemple, il y a un gars, dès que je le vois combattre, je sais que je peux sortir les pop-corns, il s'appelle Masri Amar. Il était en équipe de France, c'est un jeune pro. Et franchement, mais son style de combat, c'est le feu d'artifice. Ça peut aller dans tous les sens. Genre, c'est un ouf, il est fort partout et il est grave décomplexé en combat. À tout moment, peu importe ce qui s'est passé avant, où en est la gestion du rapport de force, il peut envoyer un coup de pied sauté, retourner, genre, sans se préoccuper de est-ce qu'il va me saisir et tout. Parce qu'en gros, on va dire. Faire le show, c'est bien, mais les conséquences, elles coûtent cher si tu te rates. Donc, il y a des gens, ils osent pas faire le show. Moi, je sais que je suis pas trop dans le show. Genre, je fais que les basiques. Je vais pas faire des trucs méga impressionnants. Mais du coup, je mets le rythme pour que les gens, ils s'ennuient pas. Et voilà, ouais, ça dépend, je pense, de chaque combattant. Et par rapport au trash talk, j'avais vu, il y avait un combattant, je me rappelle plus c'est lequel, je me demande si c'est pas Alvarez, qui faisait son trash talk avec ChatGPT. Je trouvais ça trop malin, trop drôle.
Efficace.
Ouais,
Pourquoi pas,
grave.
hein?
Ouais, bah écoute, si ça marche.
Ben ouais,
Et puis
après.
pareil, je pense qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec le trash talk. Et il y en a, en fait, ça va juste leur rajouter une pression. Et ça va les empêcher de faire les choses. Moi, je pense que je suis ni l'un ni l'autre. En vrai, je m'en fiche. Ce que je dis souvent, c'est bah si la fille elle veut me trash talk, je vais répondre. Après, si elle veut qu'on fasse le truc en mode respect, bah on fera le show dans la cage, tu vois, c'est pas grave.
Bien sûr. Et juste sur le MMA français, qui est-ce qu'on va réussir à avoir une ceinture? Est-ce que enfin on va en avoir un premier ou une première dans un futur proche? On sait qu'il y a Cyril là qui va combattre bientôt. Peut-être
Ouais.
Nassour, on ne sait pas encore s'il va pouvoir combattre.
Ouais.
S'il y avait une pièce à mettre, on la mettrait sur qui, à ton avis, Delphine?
Tu m'as dit Cyril il combat avant Nassour?
Ben Nassour, c'est pas officiel, hein. Enfin, je pense pas qu'il aura pas, je
Bah
pense,
ouais.
le title, hein. Enfin, pour l'instant, c'est
Ouais.
pas encore fait.
Bah pour moi, sur les deux, il y a une pièce à mettre.
Sur les
Je pense
deux?
que ouais, Cyril, je pense qu'il va gagner contre Aspinall. Bon après, peut-être je suis pas
T'es pas
objective,
neutre.
mais moi je le vois gagner contre Aspinall. Et j'espère qu'il va le foudroyer. Et Nassour. Franchement, je mets. Si demain il y a le combat, je mets 100 balles sur Nassour.
Allez, mais on prend les paris alors. Est-ce
Ouais,
que Vincent, est-ce que
vraiment, je le
t'es.
vois. Enfin, je pense qu'il a vraiment la trempe d'un champion. Il fait
Surtout,
tout
ils se
pour.
connaissent bien, ils ont déjà sparé ensemble avec
Ils se
Shimaev.
connaissent pas bien, mais oui, ils ont déjà fait une séance de lutte ensemble. Ils se respectent beaucoup. Donc, ça va être un beau fight avec des belles valeurs et voilà quoi.
Bien sûr. Vincent, est-ce
Et
que tu as une dernière question peut-être?
ouais, bah c'est plus pour toi, Delphine. Voilà, l'objectif est clair. Road to UFC. Qu'est-ce qui te manque pour y rentrer? Et qu'est-ce qui te manque pour aller chercher la ceinture? Parce qu'on parle de ceinture, mais why not rêver et que tu ailles chercher la ceinture de l'UFC, hein?
Ouais. Bah, qu'est-ce qui me manque pour rentrer à l'UFC? Là, en fait, normalement, si j'ai gagné mon combat, j'aurais pu y rentrer à partir de décembre. Parce que comme je te dis, je suis une 52 légère. Ça veut dire que n'importe quel short notice, tu me préviens une semaine avant, je vais faire le poids sans difficulté. Donc là, il me faut deux belles victoires avec la manière, avec un KO, avec un finish, avec une masterclass. Et ensuite, je pense que je suis pas loin. Et pour atteindre la ceinture, bah faudra voir qui a la ceinture au moment où j'y serai, puisque là, du coup, Wiley, elle laisse la ceinture vacante et elle va dans la caté d'au-dessus. Donc on va voir. Après, je pense que en fait, je suis pas encore un produit fini là pour avoir la ceinture. Là, actuellement, tu me mets un title, enfin un combat pour la ceinture. Je pense que je peux faire un combat concurrentiel contre n'importe quelle fille. Genre, je vais pas forcément me faire finir ou quoi. Mais là, pour l'instant, le top 10 de l'UFC, c'est encore compliqué pour moi. Genre, je vais pas forcément gagner les fights. Même si je vais poser de l'adversité, c'est pas poser l'adversité qui te fait gagner, tu vois. Je pense que j'ai le potentiel pour vraiment aller loin à l'UFC. Et juste, bah, faut que je continue d'affûter mes armes, de renfor enfin, d'affûter mes points forts, renforcer mes points faibles. Et voilà, en vrai, je suis super bien entourée. Tous mes coachs, c'est des tueurs. Tous mes partenaires d'entraînement, ils me proposent des situations bah, qui me font évoluer, qui me font mûrir, qui me font grandir. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie pour mes objectifs.
Et c'est quand le prochain
Parfait comme
combat,
toi.
Delphine?
Possiblement en
Possible.
décembre.
Ok. Ouh, c'est bientôt
On est en
ça.
train de voir. Et oui, moi j'aime bien
Aïe,
être
aïe,
active.
aïe.
Comme je te dis, le poids, c'est pas une galère. Donc en vrai, vu que pareil, je suis pas blessée, je suis pas. Enfin, j'aime bien combattre, je sais pas. C'est.
Quand on
Quand c'est
s'était
combattre.
rencontrés, je crois que tu avais fait 14 combats ta première année en MMA amateur, non? C'est pas ça?
Je crois que j'avais fait 12 combats de MMA et 5 combats d'anglaise. Non, l'inverse. 7 combats d'anglaise. Enfin, en tout cas, j'avais fait 17
Voilà,
combats.
c'est monstrueux, quoi.
Ouais. Mais après, en amateur, le truc, c'est que, bah, tu vois, en cas de lourd, tu peux faire 4 combats.
Ouais.
Ça monte plus vite qu'en pro. En pro, tu peux pas faire 17 combats en un an.
C'est énorme. Mais écoute,
Ouais.
est-ce que tu as un mot de la fin, Delphine? Qu'est-ce que tu veux conclure peut-être pour nos auditeurs? Est-ce que tu aurais un conseil à leur, et nos auditrices aussi, est-ce que tu aurais un conseil peut-être à leur transmettre s'ils sont combattants ou pas spécialement pour tout le monde?
Bah, faut. Bon courage aux combattants, parce que la route, elle est pleine d'embûches, mais franchement, c'est une route qui est quand même assez cool. Et s'ils veulent s'y mettre, bah go, franchement, c'est des émotions qui sont ouf. C'est vraiment un cocktail d'émotions qui est à vivre. Voilà,
Et
faire un combat.
à nos auditeurs, allez suivre Delphine parce qu'on l'a compris, le MMA, il faut gagner des combats, mais aussi il faut aussi une communauté. Donc allez l'aider et comme ça au moins le prochain elle gagne à part à l'UFC, ça sera aussi grâce à vous. Donc au moins vous serez content, vous aurez fait une bonne action. Ben merci beaucoup,
Merci.
merci
Bah,
Delphine
merci à vous pour
et
l'invitation. C'était super
ben
cool
avec
de
grand
passer ce
plaisir.
moment avec vous.
Tu reviens quand tu seras à l'UFC, on se refait un épisode et on sortira une petite
Allez.
bouteille de
Et on fait
champagne
ça, ouais.
ou au pire
Vendu.
on sortira juste une bouteille de jus de pomme ou quoi, c'est pas grave, on s'en fout.
Ouais,
On
j'allais
restera
dire, je bois
focus.
pas, mais
Ouais,
je
c'est
vous
pour
regarde
ça, je l'ai senti, on boira du jus de pomme, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Merci à tous en
trinquer.
tout cas et à très
Merci
vite
à
pour un nouvel
vous.
épisode.
Ciao,
Ciao.
salut.
Merci beaucoup.